Chapitre 5. Dans le salon d'une grande maison de briques à colonnades et frontons, bâtie vers 1825 par le père de Sipiagin, très connu comme agronome et comme un arracheur de dents, Madame Sipiagin, une fort jolie femme par parenthèse, attendait d'heure en heure l'arrivée de son mari, annoncée par télégramme. L'arrangement de ce salon portait l'empreinte d'un goût délicat et moderne. Tout y était gracieux et engageant. Tout, depuis l'aimable bariolage des tentures et des draperies de cretonne, jusqu'aux formes variées des bibelots en porcelaine, en bronze ou en métal, répandus sur les tables et sur les étagères. Tout cela se détachait doucement et se fondait harmonieusement dans les joyeux rayons d'un jour de mai, qui pénétrait en toute liberté à travers les hautes fenêtres grandes ouvertes. Pleines d'un parfum du muguet, des bouquets de cette délicieuse fleur printanière étaient dispersés çà et là. L'atmosphère du salon frémissait parfois, à peine remuée par une légère bouffée de vent qui avait frôlé en passant la verdure épanouie du jardin. Charmant tableau, et la dame elle-même, Valentine Mikhailovna Sipiagin, complétait ce tableau en lui donnant la pensée et la vie. C'était une femme d'environ 30 ans, à la taille élevée, aux cheveux châtain foncé. Son visage, d'un ton uniforme mais frais, rappelait celui de la Madone Sixtine, avec ses yeux veloutés et profonds. Elle avait les lèvres pâles et un peu épaisses, les épaules un peu hautes, les mains un peu grandes. Mais, en somme, celui qui l'aurait vue aller et venir dans son salon, aisée et légère, tantôt penchant vers une fleur sa taille fine et un peu serrée pour en respirer le parfum, tantôt changeant de place quelques vases chinois, tantôt rajustant ses cheveux lustrés devant la glace en fermant à demi ses beaux yeux, celui-là se serait certainement écrié, en lui-même, sinon tout haut, qu'il n'avait jamais rencontré une créature plus ravissante. Un joli petit garçon de 7 ans, tout bouclé, vêtu à l'écossaise avec les jambes nues, fortement pommadées et frisées, entra en courant dans le salon et s'arrêta court à l'aspect de Madame Sipiagin. « Qu'y a-t-il, Kolia ?» lui dit-elle. Sa voix était aussi moelleuse, aussi veloutée que ses cheveux. « C'est que, maman, » fit le petit garçon avec embarras, « ma tante m'a envoyé ici et m'a dit de prendre des muguets pour sa chambre. Elle n'en a pas. » Madame Sipiagin prit son fils par le menton et lui fit lever la tête. « Dis à ta tante qu'elle envoie chercher des muguets chez le jardinier. Ces muguets-ci sont à moi. Je ne veux pas qu'on y touche. Dis-lui que je n'aime pas qu'on dérange ce que j'ai arrangé. Sauras-tu lui répéter mes paroles ?»«
Je saurai, »
balbutia le petit garçon. « Voyons, comment diras-tu »«
Je dirai que tu ne veux pas. »
Madame Sipiagin se mit à rire, et le rire aussi chez elle était moelleux. « Je vois qu'on ne peut pas encore te donner des commissions, mais c'est égal, dis comme tu sauras. » Le petit garçon baisa vivement la main chargée de bagues de sa mère et se précipita hors du salon. Madame Sipiagin le suivit des yeux, soupira, s'approcha d'une cage dorée sur le grillage de laquelle un perroquet vert grimpait en s'aidant prudemment du bec et des pattes, la cassa un peu du bout du doigt, puis se laissa tomber sur un divan bas et, prenant sur un guéridon sculpté le dernier numéro de la revue des Deux Mondes, se mit à le feuilleter, appuyé au dos du divan. Une tour respectueuse lui fit lever la tête. Un superbe serviteur en habit livrée, cravaté de blanc, était sur le seuil de la porte. « Qu'y a-t-il, Agathon ? » dit-elle de la même voix douce. « Siméon Petrovitch Kalomeitsev. Ordonnez-vous de le recevoir ?»« Certainement. Fais entrer. » Et fait dire à Mademoiselle Marianne qu'elle est priée de vouloir bien venir au salon. Siméon Petrovitch Kalomeitsev était un jeune homme d'environ 32 ans. En le voyant entrer dans le salon, d'un air à la fois dégagé et nonchalant, presque langoureux, puis tout à coup laisser éclater une vive joie sur son visage, s'incliner un peu en biais et se redresser aussitôt comme un ressort, adresser la parole à la maîtresse du logis avec un nasillement doucâtre, prendre respectueusement et baiser avec effusion la main de Valentine, en voyant tout cela, Il était facile de deviner que le nouveau venu n'était pas un provincial, un riche voisin quelconque, mais bien un véritable pétersbourgeois de haute volée. Ajoutons qu'il était vêtu dans le style anglais le plus pur. La poche de côté, absolument plate, de sa jaquette bigarrée, laissait dépasser en triangle le petit coin d'un mouchoir tout neuf en batiste blanche. Son monocle pendait au bout d'un large ruban noir. Le ton pâle et mat de ses gants de suède s'harmonisait merveilleusement avec la teinte gris pâle de son pantalon quadrillé. M. Kalomeitsev portait les cheveux courts. Il était rasé de près. Son visage, presque féminin, aux yeux petits et placés près l'un de l'autre, au nez mince, aux lèvres molles, respirait l'aimable aisance qui convient à un gentilhomme parfaitement élevé. Et pourtant ce visage affable prenait facilement une expression mauvaise et même grossière, pour peu que n'importe qui se permît de toucher à n'importe quoi, notamment aux principes conservateurs, patriotiques et religieux de M. Kalomeitsev. Oh, alors il était sans pitié. Toute sa distinction s'évaporait à l'instant. Ses yeux caressants s'allumaient d'une vilaine flamme. Sa petite bouche rose laissait échapper de vilaines paroles et réclamait avec des cris de paon le secours de l'autorité. Kalomeitsev était le descendant de simples jardiniers. Son arrière-grand-père s'appelait Kolomentsov, du nom de son lieu de naissance. Mais le grand-père avait déjà transformé ce nom en Kolomeitsev. Le père signait Kalomeitsev. Enfin, Simon Petrovitch, ayant ajouté un L, se regardait sérieusement comme un noble de race pure. Il se plaisait même à répéter que leur famille descendait directement des barons de Gallenmeyer, dont l'un avait été feldmarschall en Autriche à l'époque de la guerre de 30 ans. Il servait au ministère de la cour avec le titre de gentilhomme de la chambre. Le patriotisme l'avait empêché d'entrer dans la diplomatie, où tout semblait devoir le porter. Son éducation, son habitude du monde, ses succès auprès des femmes et sa tournure. Mais quitter la Russie, jamais, disait-il en français. Il avait une bonne situation de fortune, des relations. On le considérait comme un homme d'avenir, bien doué, quoiqu'un peu féodal dans ses opinions, selon l'expression du prince B, personnage bien connu, une des lumières du monde bureaucratique à Saint-Pétersbourg. Il était venu passer 2 mois de congé dans le gouvernement de S pour s'occuper de la gestion de ses biens, c'est-à-dire pour faire peur à l'un et serrer les pouces à l'autre. Sans ces procédés-là, rien pourrait-il marcher. « Je me figurais trouver ici Boris Andreïtch, » dit-il en se balançant agréablement sur ses pieds, puis en regardant brusquement de côté, à l'instar d'un très puissant personnage. Madame Sipiagine fit une légère moue. « Sans cela, vous ne seriez pas venu ?» Kalomeitsev se renversa en arrière, tant la question lui parut injuste et peu motivée. « Oh, madame !» s'écria-t-il. « Oh, comment peut-on supposer ?»« Alors, très bien, asseyez-vous. Boris Andreïtch sera ici tout à l'heure. J'ai envoyé une calèche à la station. Un peu de patience, vous allez le voir. Quelle heure est-il » »« 2h30, » dit Kalomeitsev, tirant de la poche de son gilet une grosse montre d'or émaillée qu'il tendit à madame Sipiagine. « Avez-vous vu ma montre ? C'est un présent de Michel, vous savez, le prince de Serbie, Obrenovitch. Voilà son chiffre, tenez. Nous sommes grands amis, lui et moi. Quel charmant garçon ! Et avec cela, une main de fer, comme il convient à un gouvernant. Oh, il ne plaisante pas, non !» Kalomeitsev s'allongea dans son fauteuil, croisa les jambes et commença à ôter tout doucement son gant de la main gauche. Ah, si nous avions un homme de cette trempe dans notre gouvernement de S. Et quoi? Qu'est-ce qui vous déplaît? Kalomeitsev fronça son nez. Mais ce Zemtsvo, parbleu, ce Zemtsvo, à quoi sert-il? Uniquement à affaiblir l'administration et à éveiller des idées inutiles. Kalomeitsev battit l'air avec sa main dégantée pour y ramener la circulation interrompue par la pression du gant. Et des espérances irréalisables. Kalomeitsev souffla sur sa main. « J'ai dit tout cela à Pétersbourg. Mais bah, le vent ne vient pas de ce côté. Votre mari lui-même, figurez-vous. Du reste, il est connu pour un libéral. » Madame Sipiagine se redressa sur son divan. « Comment? Et vous aussi, monsieur Kalomeitsev, vous faites de l'opposition au gouvernement ?»« Moi, de l'opposition? Jamais. Pour rien au monde. Mais j'ai mon franc-parler.
Je critique quelquefois et je me soumets toujours. Moi, c'est tout le contraire. Je ne critique pas et je ne me soumets pas.
Ah, mais c'est un mot. Me permettez-vous d'en faire part à mon ami Ladislas, vous savez?
Il se prépare à écrire un roman du grand monde. Il m'en a déjà lu plusieurs chapitres. Ce sera délicieux. Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui-même.
Où cela paraîtra-t-il?
Dans le Messager russe, naturellement. C'est notre revue des deux mondes. Vous la lisez, je vois.
Oui, mais savez-vous, elle devient fort ennuyeuse.
C'est possible, c'est possible. Et le Messager russe, lui aussi, je crois, dégringole un brin.
Kalomeitsev rit à gorge déployée. Il trouva que c'était bien chic de dire dégringoler et encore un brin.
Mais c'est un journal qui se respecte, continua-t-il, et voilà le principal. La littérature russe, je vous le confesse, ne m'intéresse guère. Dans les romans d'à présent, il ne se trouve plus que des roturiers. On en est venu à choisir pour héroïne une cuisinière, une simple cuisinière, ma parole d'honneur. Mais quant au roman de Ladislas, je le lirai certainement. Il y aura le petit mot pour rire, et puis la tendance, la tendance. Les nihilistes seront traînés dans la boue. J'en ai pour garant la façon de penser de Ladislas, qui est très correcte.
Son passé ne l'est guère, fit observer Madame Sipiagine.
Ah, jetons un voile sur les erreurs de sa jeunesse, s'écria Kalomeitsev en achevant d'ôter son gant de la main droite. Madame Sipiagine, pour la seconde fois, joua légèrement de la prunelle en clignant les paupières. Elle était un peu coquette de ses yeux incomparables.
Siméon Petrovitch, dit-elle, dites-moi, je vous prie, pourquoi, en parlant russe, vous employez tant de mots français?
Il me semble que, vous m'excuserez, que c'est passé de mode.
Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde ne possède pas sa langue natale aussi admirablement que vous, par exemple.
Pour ma part, je regarde le russe comme la langue des oukases et des choses officielles. J'attache une grande valeur à sa pureté. Je m'incline devant Karamzin.
Mais le russe, si j'ose m'exprimer ainsi, journalier,
est-ce qu'il existe seulement? Tenez, par exemple, mon exclamation de tout à l'heure. C'est un mot. Impossible de dire cela en russe.
J'aurais dit, c'est une expression heureuse.
Kalomeitsev se mit à rire. Expression heureuse. Oh, madame, mais ne voyez-vous pas que cela sent le maître d'école, le séminaire? Tout le sel a disparu.
Bon, vous ne me convaincrez pas.
Mais que fait donc Marianne?
Elle sonna.
Un petit groom entra. J'ai dit qu'on pria Mademoiselle Marianne de venir au salon. Est-ce qu'on aurait oublié?
Le petit groom n'avait pas encore eu le temps de répondre, lorsque derrière lui, sur le seuil, apparut une jeune fille aux cheveux coupés en rond, vêtue d'une large blouse de couleur sombre. C'était Marianne Vikentievna Sinetskaya, nièce de Sipiagin par sa mère.
Chapitre 6. Valentine Mikhailovna, dit la jeune fille en s'avançant vers Madame Sipiagin. J'étais occupée et je me suis laissée attarder. Elle salua ensuite Kalomeitsev et, s'écartant un peu, alla s'asseoir sur un petit pâté dans le voisinage du perroquet qui, aussitôt qu'il l'aperçut, se mit à battre des ailes et lui tendit le cou.
« Pourquoi t'es-tu assise si loin, Marianne ?» fit observer Madame Sipiagin, dont les yeux l'avaient suivie jusqu'au pâté.
« C'est pour te rapprocher de ton petit ami ?»
« Figurez-vous, dit-elle à Kalomeitsev, que ce perroquet est positivement amoureux de notre Marianne. »«
Cela ne m'étonne pas. »«
Et il ne peut pas me souffrir. »«
Voilà qui est surprenant. Probablement vous le taquinez. »«
Jamais. Au contraire, je lui donne du sucre. Seulement, il ne le prend pas de ma main. Non, c'est une affaire de sympathie et d'antipathie. »
Marianne regarda en dessous Madame Sipiagin, et celle-ci la regarda. Ces deux femmes ne s'aimaient point. En comparaison de sa tante, Marianne pouvait passer presque pour un laideron. Elle avait le visage rond, le nez grand et aquilin, les yeux gris, grands aussi et très clairs, les sourcils fins et les lèvres minces. Elle portait court ses épais cheveux châtains, et elle avait l'air bourru. Mais toute sa personne respirait je ne sais quoi de fort, de passionné et d'impétueux. Ses pieds et ses mains étaient extrêmement mignons. Son petit corps robuste et souple rappelait les statuettes florentines du XVIe siècle. Ses mouvements étaient légers et harmonieux. la position de Mademoiselle Sinetskaya dans la maison Sipiagin était assez difficile. Son père, homme hardi et intelligent, d'origine semi-polonaise, était parvenu au grade de général. Tout à coup, on découvrit sa participation à un vol énorme au préjudice de l'État. Il fut jugé, condamné. Il perdit ses grades et sa noblesse. Il fut envoyé en Sibérie. On le gracia par la suite. Il revint en Russie, mais il n'eut pas le temps de remonter l'échelle, et il mourut dans la dernière misère. Sa femme, sœur de Sipiagin et mère de Marianne, son unique enfant, ne put supporter ce coup qui détruisait toute une heureuse existence. Elle mourut bientôt après son mari. L'oncle Sipiagin recueillit Marianne dans sa maison. Mais la jeune fille avait en dégoût cette vie dépendante. Elle aspirait à la liberté avec toute l'énergie d'une âme indomptable. Entre elle et sa tante subsistait une lutte constante, quoique cachée. Madame Sipiagin la considérait comme une nihiliste et une athée. De son côté, Marianne détestait en Madame Sipiagin une persécutrice inévitable. Elle se tenait à distance de son oncle et de tout le monde. Elle évitait les hommes, mais sans les craindre, son tempérament n'étant pas timide. L'antipathie, répéta Kolomeïtsev, oui, c'est une chose bien étrange. Ainsi tout le monde sait que je suis un homme profondément religieux, orthodoxe dans toute l'acception du mot. Mais je ne puis voir de sang-froid la queue de rat d'un prêtre. Ça bouillonne en moi, ça bouillonne. Pour exprimer combien ça bouillonnait dans sa poitrine, Kolomeïtsev leva deux fois son poing fermé. Les cheveux vous causent de l'ennui en général, monsieur Kolomeïtsev, fit remarquer Marianne. Je suis sûr que vous ne pouvez pas non plus voir de sang-froid ceux qui les portent courts comme moi. Madame Sipiagin leva lentement ses sourcils et secoua la tête comme pour exprimer son étonnement au sujet du sang-gêne avec lequel nos jeunes filles modernes se mêlent à la conversation. Mais Kolomeïtsev sourit d'un air de condescendance. Certainement, dit-il, je ne puis faire autrement que de regretter ces belles boucles semblables aux vôtres, mademoiselle Marianne, qui tombent sous le tranchant impitoyable des ciseaux. Mais cela ne m'inspire pas d'antipathie. Et dans tous les cas, votre exemple pourrait me convertir. Kolomeïtsev n'avait pas trouvé le mot russe, et comme il ne voulait pas parler français à cause de l'observation de Madame Sipiagin, il en fabriqua un franco-russe. Dieu merci, Marianne ne porte pas encore de lunettes, dit Madame Sipiagin, et jusqu'à présent elle n'a pas encore renoncé aux cols et aux manchettes. En revanche, à mon grand regret, elle étudie les sciences naturelles. Et s'intéresse aussi à la question des femmes, n'est-ce pas, Marianne? Tout ceci avait pour but de troubler Marianne, mais elle ne se troubla pas. Oui, ma tante, répondit-elle, je lis tout ce qui s'écrit à ce sujet. Je m'efforce de comprendre en quoi consiste cette question. Ce que c'est que la jeunesse, dit Madame Sipiagin à Kolomeïtsev. Vous et moi ne nous occupons pas de cela, eh? Kolomeïtsev eut un sourire d'approbation. Il fallait bien soutenir la plaisanterie enjouée de l'aimable dame. Mademoiselle Marianne, commença-t-il, est encore imbue de cet idéalisme, de cette juvénilité romantique avec le temps. D'ailleurs, je me calomnie, interrompit Madame Sipiagin. Ces questions m'intéressent aussi. Enfin, je ne suis pas tout à fait assez vieille pour rester tellement en arrière. Moi aussi, je m'intéresse à tout cela, s'écria précipitamment Kolomeïtsev. Seulement, j'aurais défendu d'en parler. Vous auriez défendu d'en parler, répéta Marianne. Oui, j'aurais dit au public, je ne vous empêche pas de vous y intéresser, mais en parler, chut. Il posa un doigt sur ses lèvres. Dans tous les cas, j'aurais défendu de rien imprimer là-dessus. Absolument, absolument. Madame Sipiagin se mit à rire. Comment? À votre avis, ne faudrait-il pas nommer une commission au ministère pour résoudre cette question? Une commission? Pourquoi pas? Pensez-vous que nous ne saurions pas résoudre la question aussi bien que ces gratte-papiers meurent de faim qui n'y voient pas plus loin que le bout de leur nez et se figurent être des génies de premier ordre? Nous aurions nommé votre mari rapporteur. Madame Sipiagin rit de plus belle. Attention, prenez garde. Boris se montre quelquefois tellement jacobin. « Jaco, Jaco, Jaco !» fit le perroquet. Madame Sipiagin agita son mouchoir pour l'effrayer. ne dérange pas la conversation des gens d'esprit. Marianne, amuse-le. » Marianne se tourna vers la cage et se mit à gratter avec l'ongle le cou que le perroquet lui tendit à l'instant. « Oui, reprit Madame Sipiagine, quelquefois Boris m'étonne moi-même. Il a en lui la fibre du tribun. » « C'est parce qu'il est orateur, » dit Kolomeitsev en français cette fois-ci. « Votre mari a le don de la parole plus que personne, et il est accoutumé à briller. Ses propres paroles le grisent. Et là-dessus, le désir de la popularité. À propos, en ce moment, n'est-il pas un peu fâché? Il boude, eh ?»
Madame Sipiagine dirigea un regard vers Marianne.
« Je n'ai pas remarqué cela, » fit-elle après un court silence.
« Oui, » continua Kolomeitsev sur un ton méditatif. « On lui a fait quelques passes droits à Pâques. »
Madame Sipiagine lui indiqua Marianne des yeux pour la seconde fois. Kolomeitsev sourit et cligna de l'œil pour expliquer qu'il avait compris.
« Mademoiselle Marianne, » s'écria-t-il soudain, plus haut qu'il n'était nécessaire, « avez-vous l'intention de donner encore des leçons cette année à l'école ?»
Marianne tourna le dos à la cage. « Est-ce que cela vous intéresse aussi, Simeon Petrovitch ?»«
Certainement, beaucoup même. Vous n'auriez pas défendu cela. »
« Au nihiliste, j'aurais défendu de penser seulement aux écoles. »
Mais sous la direction du clergé, et en surveillant le clergé, j'aurais été le premier à créer des écoles.
« Vraiment ? Je ne sais pas encore ce que je ferai cette année. L'année dernière, tout est allé si mal.
Et quelle classe voulez-vous qu'on ait en été ?»
En parlant, Marianne rougissait toujours, comme si la parole lui coûtait un effort, comme si elle se forçait à continuer. Il y avait en elle encore beaucoup d'amour-propre.
« Tu n'es peut-être pas suffisamment préparée, » demanda Madame Sipiagine, avec un certain frémissement ironique dans la voix.
« Peut-être. »«
Comment ? » s'écria Kolomeitsev. « Qu'entends-je ?
Oh Dieu ! Pour enseigner l'alphabet aux petites paysannes, il faut une préparation antérieure ?»
Mais en ce moment, Kolia se précipita dans le salon en criant « Maman, maman, voici papa !» Et à sa suite entra en se dandinant sur ses grosses jambes une dame coiffée d'un bonnet, vêtue d'un châle jaune, qui annonça également que Borinka allait arriver. Cette dame était une tante de Sipiagine, nommée Anna Zakharovna. Toutes les personnes présentes dans le salon se levèrent en hâte et se rendirent dans l'antichambre. De là, elles descendirent l'escalier et passèrent sur le perron principal. Une large allée de sapins taillés conduisait de la grande route à ce même perron, et le long de cette allée roulait une calèche attelée de 4 chevaux. Valentine, qui se tenait en avant, agita son mouchoir. Kolia cria d'une voix perçante. Le cocher arrêta net ses chevaux fumants juste devant le perron. Le valet de pied dégringola comme un tourbillon en bas du siège, ouvrit la portière de la calèche avec tant de violence qu'il faillit en arracher la serrure et les gonds. Et un sourire bienveillant sur les lèvres, dans les yeux et sur tout son visage, rejetant d'un seul mouvement aisé et fier le manteau qui couvrait ses épaules, Boris Sipiagine mit pied à terre. Valentine lui jeta les bras autour du cou avec un geste rapide et gracieux, et ils s'embrassèrent 3 fois sur les 2 joues. Kolia piétinait et tirait son père par les pans de la redingote. Mais celui-ci, ayant préalablement ôté une horrible casquette de voyage écossaise, aussi incommode que laide, embrassa d'abord Anne Zakharovna, puis souhaita le bonjour à Marianne et à Kolomeitsev, qui se tenaient aussi sur le perron. Il donna à ce dernier un vigoureux shake hands à l'anglaise, en imprimant à son bras un mouvement de branle comme s'il sonnait une cloche. Et alors seulement se tourna vers son fils, qu'il prit sous ses aisselles, enleva de terre et approcha de son visage. Pendant que se passait tout ceci, Nejdanov s'était glissé hors de la calèche comme un délinquant, et il était resté près de la roue de derrière, sans ôter son bonnet et regardant en dessous. Valentine, tout en embrassant son mari, avait jeté un coup d'œil scrutateur par-dessus son épaule sur ce visage nouveau. Sipiagine l'avait prévenu qu'il amènerait un précepteur. Alors toute la société, sans cesser d'échanger des compliments et des poignées de main avec le maître du logis nouvellement arrivé, se dirigea vers l'escalier, garni des 2 côtés par les principaux serviteurs et servantes. Ils ne vinrent pas baiser la main du barin, cette coutume asiatique ayant été depuis longtemps abolie.
et se bornèrent à saluer respectueusement. Sipiagin leur rendit leur salut, plutôt des sourcils et du nez que de la tête. Nejdanov s'avança à son tour sur les larges marches. Comme il entrait dans l'antichambre, Sipiagin, qui le cherchait des yeux, le présenta à sa femme, à Marianne et à sa tante, puis il dit à Kolia, « Voici ton précepteur, je te prie de lui obéir. Donne-lui la main. » Kolia tendit timidement la main à Nejdanov, puis le regarda fixement. Mais ne trouvant apparemment en lui rien de particulier ni d'agréable, il se raccrocha à son papa. Nejdanov se sentait mal à l'aise. Comme au théâtre, il portait un vieux paletot passablement fripé. La poussière du voyage couvrait son visage et ses mains. Madame Sipiagin lui dit un mot aimable, mais il ne l'entendit pas bien, et fit seulement la remarque qu'elle jetait sur son mari des regards lumineux et caressants, et qu'elle se serrait contre lui. Le toupet frisé et pommadé de Kolia lui déplut. À l'aspect de Kalomeïtsev, il pensa « Quel museau bien léché !» et ne fit pas du tout attention aux autres personnes. Sipiagin tourna deux fois la tête à droite et à gauche avec dignité, comme pour reconnaître ses pénates. Ce mouvement fit admirablement ressortir ses longs favoris pendants et sa petite nuque rebondit. Ensuite, de sa voix étoffée et sonore, que la fatigue du voyage n'avait nullement altérée, il cria à l'un des domestiques « Ivan, conduis monsieur le précepteur à la chambre verte et porte-y sa valise. » Puis il expliqua à Nejdanov qu'il pouvait maintenant se reposer, s'installer et se débarbouiller. Quant au dîner, on le servait à 5 heures précises. Nejdanov s'inclina et se rendit à la suite d'Ivan dans la chambre verte située au second étage. Toute la société passa dans le salon. Là, on répéta encore la bienvenue. Une vieille bonne à moitié aveugle vint saluer le maître. Par respect pour l'âge de celle-ci, Sipiagin lui donna sa main à baiser. Et priant Kalomeïtsev de l'excuser, il se rendit dans sa chambre accompagné de son épouse.